samedi Sabatier avec Christophe Willem à l'occasion de la sortie de l'album Rio.
Bon alors écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. On est en fin de semaine, on est en fin de mois, nous sommes le samedi 30 septembre. Et entre 12h et 13h, bah tiens, je trouve que c'est maintenant. Et c'est l'émission de Christophe Willem. Ça va bien Christophe ?
Ça va très bien.
Alors je suis très heureux parce que c'est la première fois qu'on se rencontre.
Exactement.
Moi je vous connais. Hein.
Moi aussi je vous connais.
Je vous ai déjà vu à la télé. Et j'ai bien aimé la façon dont vous êtes arrivé à la télévision. Parce qu'au départ, avec ce concours... Je sais pas, vous y êtes allé, mais sans y croire, ou alors...
J'y suis allé un peu en dilettante. Ma sœur m'avait inscrit à l'émission. Et jusque la fin de cette émission, c'était le plaisir de jouer, chanter en live avec des vrais musiciens, un vrai micro, et non plus l'éternelle télécommande que j'avais dans mon salon. Donc c'était plus la notion de plaisir que la logique d'être absolument le gagnant de l'émission.
Déjà, on va en parler dans un instant, mais on va parler de beaucoup d'autres choses, et notamment de l'actualité de cet album qui est sorti hier. Alors, le principe de l'émission, vous avez devant vous une tablette.
Oui.
Il s'agit tout simplement de slider de droite à gauche. Il y a des mots, et avec ces mots, moi, je dois faire des questions.
Très bien.
Et vous devez apporter des réponses.
Très bien. Jusqu'à là, ça va.
Bon, oui, bon. Voilà. Alors, là, je vois Marlon Brando.
Oui.
Bon, Marlon Brando. Non, ils ont mis Marion Brando.
Oui, ils ont mis Marion Brando. Mais c'est parce que... peut-être un petit jeu de mots.
Non, il n'y a pas. Il y a simplement un peu trop d'alcool.
Mais il n'y a pas
de jeu de mots. Alors, bon, ça fait partie de l'album. Mais j'aimerais savoir comment on arrive, à un moment donné, ça m'a toujours d'ailleurs passionné, comment de rien on fait un album. Ça, c'est-à-dire que c'est de jour en jour, on y pense longtemps, on a tout en vrac et on.
C'est un peu un mélange des deux. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur la musique, avant toute chose. Moi, je compose au piano. Et cet album-là, j'ai travaillé avec Aurélien Mazin, avec qui je suis sur scène régulièrement. Et on a travaillé sur cet album à la toute fin de la tournée. C'est-à-dire qu'à la dernière date de tournée, on s'est dit, bon, rendez-vous la semaine prochaine à la maison. Et on va essayer, dans cette dynamique-là, de voir ce qui sort un peu, quelle est l'énergie.
Mais ne sachant pas où aller.
Du tout. À chaque fois, je travaille sur un album, ce qui fait que chaque album, d'ailleurs, est assez différent. Il n'y a pas de cahier des charges ou d'idées premières au début. C'est juste laisser porter par la musique, par le feeling qu'il y a au moment où on est en train de composer. Et cet album-là, je l'ai fait de chez moi. Donc, j'étais dans une démarche assez différente. Je m'étais installé un genre de petit home studio pour avoir de quoi composer. Mmh. Et du coup, on était dans quelque chose d'assez décontracté et les choses sont faites de manière assez fluide. J'avais pas l'impératif de on loue un studio et donc à la fin de la journée, il faut qu'il y ait au moins 3 titres parce que la location du studio, elle tourne. Donc du coup, c'était un confort de travail qui faisait que voilà, on se faisait vraiment plaisir de A à Z.
Mais le premier jour de la première minute, vous ne saviez pas que ça allait s'appeler Rio.
Du tout.
Alors, c'est ça qui m'intéresse alors. C'est-à-dire que c'est vraiment la feuille blanche et on ne sait pas où on va.
En fait, c'est vraiment... au début, voilà, pour vous expliquer clairement, Aurélien, souvent, moi, je ramène quelques accords que j'ai trouvés au piano, une suite d'accords que je trouve harmonieuse. Lui, là-dessus, essaye de mettre une rythmique pour que cet accord-là, ces accords deviennent un genre de base, de titre. Et par-dessus, en fait, moi, je crée la mélodie. Et une fois que la mélodie est en place... Je pars avec mes petites chansons en yaourt, comme on dit, c'est-à-dire des mots qu'on balance comme ça. Et après, il faut leur donner une vie. Et c'est vrai que cette vie-là, elle prend naissance par rapport aux expériences, aux gens que je rencontre. Et là, en fait, très peu de temps après avoir enregistré les maquettes, comme on dit, donc avec ces textes en yaourt, je suis parti à Rio pendant les Jeux Olympiques l'année dernière. Alors, je précise qu'évidemment, je ne suis pas sportif, donc je n'ai pas concouru quelque part.
Bon, on l'avait vu. On l'avait vu qu'on ne vous avait pas vu. Déjà.
Voilà. Non, en fait, je suis parti là-bas dans le cadre de la francophonie avec Manu Dibango qui faisait une représentation sur place durant les Jeux Olympiques. Et je suis arrivé à Rio et cette ville m'a vraiment inspiré. C'est-à-dire que je ne suis vraiment pas parti dans l'idée de me dire cet album s'appellera Rio et en gros, c'est là-bas que je vais être inspiré pour les textes. C'est l'énergie de cette ville, la dynamique de cette ville. Et d'un seul coup, je trouvais qu'il y avait un sens, il y avait quelque chose à raconter, et en tout cas quelque chose qui m'inspirait. Et au retour de Rio, j'ai commencé à étoffer les titres, les bribes de titres que j'avais écrits là-bas en texte.
L'album est sorti depuis hier. On va parler des étoiles, car dès ce soir, vous allez y passer quelques semaines. Là, on va écouter Marlon Brando. Alors, deux mots sur la chanson.
Je voulais quelque chose d'assez... ironique, je crois que c'était important par rapport à l'album précédent de retrouver une dose de dérision, ce que j'ai réellement dans la vie, et l'album précédent avec un côté un peu sérieux. Et je trouvais ça bien de revenir avec un morceau qui remettait en avant ma personnalité avant de remettre en avant la musique qui arrive avec le single suivant.
C'est bien ce que vous dites, on va en parler.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur MFM Radio.
C'est Christophe Willem qui est votre invité. Alors, un autre mot.
Alors.
Et on va voir. Confiance.
Confiance.
Est-ce que vous avez. Vous parliez de dérision. Moi, c'est ce que j'ai aimé au départ chez vous, justement. Cette dérision, cette mise à distance des choses. Ça m'arrive, mais ça aurait pu arriver à d'autres. J'étais là au bon moment, bah tant mieux, voilà.
Il y a un peu de ça.
Voilà. Hein. Et puis après, il y a eu un côté un peu plus sérieux. Puisqu'on ne se connaît pas, on peut se parler franchement.
Je me suis dit,
mais pourquoi qu'il reste lui-même ? C'est comme ça qu'on l'aime. Et là, on vous retrouve. Et là, je suis très content.
Ah, ben c'est bien. Je préfère disiez ça que l'inverse. Alors là, on vous a totalement perdu
sur cet
album.
Non, vous comprenez ce que je veux dire ?
Je suis assez d'accord avec vous.
Comme si à un moment donné, vous ne vous apparteniez plus, mais il fallait faire ce qu'il fallait faire. Non, ce qu'il faut faire, c'est ce que vous avez envie de faire.
Mais en fait, c'est-à-dire que, alors, objectivement, parce qu'il faut vraiment que je sois honnête, on ne m'a jamais imposé de choses. C'est-à-dire que mes choix ont toujours été assumés à 100%. En revanche, la dynamique qu'on est dans ce métier fait que des fois, on peut avoir tendance à trop anticiper ou à trop vouloir surprendre et du coup s'éloigner un petit peu de ce qu'on est. C'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au sortir de l'album Inventaire, donc c'était le premier album où il y avait Double Jeu, Jacques Haddy, c'est vrai que c'était un énorme succès cet album. Et en fait, j'avais une pression sur mes épaules parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi je ne reprenais pas les mêmes équipes pour faire une réédite du premier album. C'est vrai que j'ai un esprit de contradiction qui est un peu présent, on va dire. Et pour moi, de toute façon, on peut pas enchaîner, mais c'est mon point de vue, deux succès consécutifs parce qu'il y a forcément une dose de répétition ou de mimétisme qui se crée et c'est ce que je n'aime pas du tout. Donc si vous voulez, au deuxième album qui était Caféine, je préférais faire quelque chose de totalement assumé et de totalement différent pour qu'il n'y ait pas de point de comparaison entre les deux albums. Et après, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'ai à chaque fois affiné davantage les choses et que mon côté, j'aime les choses, je suis assez esthète dans la vie. C'est-à-dire que j'ai une notion de la beauté, mais qui m'est propre. Chez moi, vous venez, tout est à sa place. C'est un peu hystérique, mais tout est à sa place, tout est où ça doit être. Et du coup, souvent dans mes albums, j'ai privilégié l'esthétique des choses, le côté des fois tout à sa place et des fois ce côté esthétique se déconnecte du côté émotionnel des choses. Et c'est vrai que sur cet album-là, c'était tout ce que je ne voulais pas faire, justement. Et à chaque fois, le travail sur cet album, ça a été, oui, bon, là, c'est très, très beau, mais et quoi ? Il se passe quoi à part ça, en fait ? Donc, je voulais chercher plus loin. En fait.
Alors, le mot, c'est confiance. Est-ce que vous avez confiance en vous, maintenant ? Est-ce que vous l'avez perdu ? Est-ce que vous l'avez retrouvé ? Est-ce que vous vous faites confiance ?
Je fais confiance à mon instinct.
Donc, vous vous faites confiance.
Voilà.
Allez, un autre mot. En fait, c'est comment chez vous ?
C'est moi ?
Ouais.
J'habite dans une maison, dans le 95, là où j'ai grandi, en fait. C'est un mélange de la maison d'un musicien. Vous arrivez, il y a un piano en premier qu'on voit. Il y a la pièce pour travailler, qui est un genre de cocon, qui est tout au bout de la maison, qui est un peu l'endroit où je m'enferme pour écrire ou faire de la musique. Et puis le reste, c'est une maison qui est très ouverte vers l'extérieur, mais avec... le besoin d'être dans quelque chose de protégé. J'ai besoin
Vous êtes maniaque ?
Très. Très maniaque. Oui, trop, mais très.
C'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, si vous mangez chez moi et que vous commencez à mettre des miettes partout, je ramasse les miettes pendant que vous êtes en train de manger. Ça vous donne le niveau de maniaque. Voilà.
Bon appétit, mesdames et messieurs, puisque c'est l'heure du déjeuner. La dernière émission de télévision que vous avez aimée, c'était laquelle ?
La dernière émission de télé que j'ai aimée... Me concernant.
Non.
Ah non, parce que j'allais dire, je regarde très peu les émissions que je fais.
Non. Il n'y a pas que moi, je vous.
Non, parce que je dis bon. J'allais dire non, c'est bizarre. Dernière émission que j'ai aimée. Alors bon, oui, c'est vrai que bon, j'ai une vie passionnante, mais j'aime beaucoup Arte.
Je
regarde beaucoup de reportages en replay. Alors pour vous tout vous dire et expliquer le vide de ma vie. Non, la dernière émission que j'ai dû regarder, c'était une émission sur les villes du futur. En replay, qui était en trois volets sur Arte, que je trouvais passionnante.
Ramassant les miettes du déjeuner.
En ramassant les miettes du déjeuner. Non, mais c'est vrai, je regarde beaucoup de reportages, en fait.
Il y en a beaucoup sur Arte et sur France 5 aussi, c'est très intéressant. Allez, une autre question, avec d'autres mots. Cuisinier ou les pieds sous la table. Ah oui, d'accord.
Alors, je déteste, mais c'est le truc le pire, faire à manger.
Ah.
Et c'est, alors, tout va de pair. C'est-à-dire, je déteste acheter des choses, enfin, acheter à manger.
Ah oui, carrément.
Ah oui,
vous aimez, quand même, vous aimez bien manger des trucs, quand même, non? Ou alors...
Oui.
Mais vous, vous... Ah non, vous êtes du genre à vous nourrir, à ne pas manger, vous?
Oui, oui. Je suis du genre à me nourrir parce que c'est vital de se nourrir. Donc, je suis du genre à vous dire, non, mais il faut un peu de légumes parce que c'est important, c'est des antioxydants, il faut un peu de féculents, un peu de trucs.
Ah, mais pas de plaisir à se mettre à table.
Pas forcément. Le seul truc qui vient casser ça, c'est les crêpes au Nutella.
D'accord.
Voilà, c'est un vrai souci d'ailleurs, parce que je peux avoir des phases où je fais genre hyper attention et pendant une semaine tous les soirs, je vais manger 3 crêpes au Nutella qui vient tuer totalement ce que j'essaie de mettre en place. Mais je suis pas gourmand en soi.
Alors, une autre question, un autre mot peut-être, le regard de l'autre. Est-ce que et le regard que l'on a sur vous aujourd'hui, ça compte plus que ce que ça pouvait compter quand vous avez commencé? C'est-à-dire qu'on peut dire que vous êtes public depuis à peu près 11 ans. Je pense qu'au début, il y a une part d'inconscience quand on devient public, puisqu'on ne choisit pas.
Oui,
enfin,
on
voilà.
Est happé par
voilà,
ça.
On est happé. Complètement... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus soucieux de ce qu'on dit ou de ce que les gens pensent de vous?
Je l'ai été à un moment. C'est-à-dire que au bout de 2 ou 3 albums, on est plus sensible au regard. Et puis en plus, moi, je suis arrivé un peu avec l'arrivée des réseaux sociaux aussi. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai fait La Nouvelle Star, il n'y avait pas tous ces réseaux instantanés. Donc, il n'y avait pas le commentaire du commentaire du commentaire, en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai dû m'adapter à ce qu'étaient les réseaux sociaux et la facilité qu'on pouvait à être totalement critiqué, jugé ou à insulter des fois de manière totalement gratuite. Moi, j'ai connu l'époque, même si je suis pas là depuis des années, mais j'ai connu l'époque où on jugeait le travail de quelqu'un et pas la personne. Donc, j'ai dû m'adapter à ça. Mais alors, maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de recul, en fait. Donc, je lis très rarement ce qu'on dit de moi.
Vous avez raison.
Mais très rarement. Et en fait, ce qui m'importe, c'est de d'être centré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me reconnais dans ce que je fais et où mon entourage proche, les gens que j'aime me reconnaissent, le reste m'importe peu, en fait.
Alors, elle fait partie de votre entourage, Zazie, où on en a fait partie, parce que bon, vous ne voyez pas tous les jours non plus quand même aujourd'hui. Vous l'avez choisi dans la programmation et on va continuer à parler. Je suis content de vous connaître.
Ah ben merci.
Non mais je suis sûr qu'on doit passer de bons moments, on doit bien rigoler avec vous aussi.
Ah oui, mais un peu plus dingue que justement quand je me contiens. Mais on passe des bons moments. J'ai un côté très épicurien. Donc
d'accord,
moi,
je viendrai chez vous avec un aspirateur en plus, mais... comme ça il y aura
pas de problème. Ah, j'en ai de très bien, je suis expert en aspirateur.
Zazie.
Samedi Sabatier avec Christophe Willem à l'occasion de la sortie de l'album Rio.
Alors un autre mot sur la tablette qui va me permettre de vous poser une question gospel.
Gospel.
C'est vrai que j'ai affaire à un musicien, alors ce qui n'est pas toujours le cas de tous mes invités, ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs que les interprètes ne sont pas des musiciens, mais c'est autre chose. La musique de gospel, la musique de jazz, la musique de blues, la musique de piano, enfin vous avez baigné dedans.
Ouais.
Et alors, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que quand j'ai lu beaucoup de choses sur vous pour préparer cette émission, même si j'ai l'air d'arriver comme ça, je travaille aussi.
Non, mais c'est ça, l'art.
Et je me dis, attends, ce gars a voulu à un moment donné être prof d'éco et de gestion, alors qu'il a baigné totalement dans la musique. Pour moi, votre trajet d'artiste, il était, enfin, dès 7 ans, pour moi, vous y êtes, quoi.
Alors... C'est la question, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'elle n'y paraît. C'est vrai que la musique a un rôle très très important dans ma vie depuis tout jeune, parce que c'est un exutoire, c'est une manière de développer sa sensibilité. Donc ça, c'est vraiment concret. Après, si vous voulez, dans le métier que je fais aujourd'hui, j'irais d'une certaine manière, j'ai autant de plaisir à faire la conception des choses que réellement être sur le devant de la scène. C'est-à-dire que le devant de la scène, d'une certaine manière, pour moi, ce n'est pas la finalité de mon travail. C'est-à-dire que c'est le moyen de m'exprimer et de partager avec les gens. Mais je ne suis pas en recherche de gloire. Je ne sais pas comment expliquer.
Je comprends bien ça, mais est-ce que ça veut dire que vos chansons, qui sont vraiment, alors là, vos chansons que vous incarnez, vous pourriez les faire chanter, interpréter par d'autres?
Alors non. Non, ça clairement, non mais vraiment.
Non, mais c'est là. Non,
j'ai
là...
beaucoup de mal. En fait, je me suis déjà posé la question d'écrire pour des gens ou faire de la musique pour des gens. Non, c'est un truc qui serait plus difficile pour moi. Mais quand je parle de conception, voilà, le travail qui est de réfléchir autour d'un artiste par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il crée, et essayer de le mettre en avant, essayer de concevoir visuellement ou artistiquement un concert, et essayer de sublimer le travail de quelqu'un. Ça me plaît. Maintenant, c'est vrai que écrire ou composer de la musique, je trouve que c'est quelque chose de tellement personnel. En fait, c'est un exercice. Je l'ai jamais fait. peut-être qu'un jour ça arrivera, mais c'est un truc que je trouve difficile. Et d'ailleurs, les gens avec qui je travaille, que ce soit sur l'ensemble des albums Zazie, ou Carla Bruni, ou même Jean-Jacques Goldman, ou Zao, avec qui j'ai travaillé aussi, je suis incapable de demander une commande. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi, et d'ailleurs la majorité du temps, quand c'est arrivé au tout début, c'est des titres qui n'ont pas du tout marché, parce que c'est, pour moi, la standardisation, c'est l'inverse de l'artistique. C'est-à-dire que c'est pour moi carrément antinomique comme concept. Donc je suis obligée, voilà, que ce soit chacun de ces auteurs-là, je discute, mais des heures, et on se revoit à plusieurs reprises pendant au moins 2 ou 3 mois, et une fois qu'on s'est vraiment livré, une fois que moi je me suis livré et que ces gens se sont livrés à moi aussi, donc la confiance s'installe, ils sont capables de pouvoir écrire des choses qui sont sur mesure parce qu'il n'y a plus de filtre. Mais c'est une démarche qui est longue dans le temps. Donc écrire pour d'autres gens, ça voudrait dire s'investir totalement dans leur personnalité et leur vie pour comprendre qui ils sont réellement.
Un autre mot, alors.
Je parle beaucoup, hein, c'est un peu...
Non, pas du tout, vous êtes là pour ça, c'est votre émission. Quand je suis seul.
Quand je suis seul.
Ça vous arrive, hein?
Oui. Je suis assez souvent seul.
Alors?
Et alors, je ne suis pas très fan de la solitude. Non, mais j'ai un problème avec ça. Si vous voulez, pour moi, la vie n'a pas d'intérêt si elle n'est pas partagée. Alors que ce soit sentimentalement parlant ou même simplement humainement dans le sens large, c'est-à-dire que j'ai besoin, je suis très contemplative, j'aime bien observer les choses, j'aime bien évidemment la musique, donc découvrir des lieux, des ambiances. Mais si vous voulez, pour moi, cette découverte-là et ce plaisir de la vie n'a d'intérêt que si vous pouvez en échanger avec quelqu'un qui a vécu ces instants-là. Donc, si vous voulez, la solitude, pour moi, j'ai l'impression que je perds mon temps. J'ai une notion de je ne vis pas un moment important, parce que je considère que chaque moment a son importance, en fait.
Là, quand vous découvrez Rio et que vous nous ramenez un album qui s'appelle Rio, c'est aussi le partage des choses que vous avez vécues,
oui.
Que vous voulez donner en disant voilà. Presque parlons-en, quoi. Voilà. Oui. Je peux pas le garder pour moi.
Ben, y a ce truc-là, c'est vrai que Rio. Alors Rio, c'est un concept au-delà même d'être cette ville. C'est-à-dire que Rio, c'est une ville qui est tout sauf une ville parfaite. On le sait bien vu le contexte encore plus actuel. Mais je trouve que Rio, c'est un condensé un petit peu de l'état du monde actuel. C'est-à-dire que c'est un condensé d'un écart de richesse, qui est de plus en plus grand, d'une délinquance, d'une violence qui est de plus en plus grande, et en même temps. Et c'est ce que je vois aussi au jour le jour, un condensé de gens qui essayent de profiter de la vie au jour le jour à 100% parce qu'ils savent qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et je trouve que cette notion-là de profiter à 100% des choses, je trouve que souvent ici en France, en Europe en général, on a un certain snobisme par rapport à la vie en général. Alors on va tous avoir un élan populaire, un élan citoyen au lendemain, par exemple, des attentats. Et puis cet élan, il repart en une fraction de seconde au prochain fait divers. Et je me dis, mais quel dommage qu'on ne puisse pas tirer profit du meilleur de l'être humain dans des moments difficiles pour justement réussir à amener une cohésion. En fait.
C'est ça l'album, d'ailleurs.
C'est complètement là-dessus, l'album.
Ce présent, cette distance qu'il faut avoir et également se rendre compte que faut le vivre maintenant. Quoi.
Mais alors, ma référence là-dedans, c'est Edgar Toll. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Le pouvoir du moment présent, c'est un livre aussi que j'ai lu pendant que je travaillais sur l'album. Et c'est totalement ma philosophie. Il vous explique qu'on est tous dans un carcan qui vous explique qu'en fait, on passe son temps à regretter des actions passées et à anticiper un futur qui n'est pas encore là. Et en vrai, on répète toujours la même chose, qui est qu'on ne vit jamais le seul et véritable instant qui est le présent. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce qu'avec tous les réseaux sociaux, on est dans l'immédiateté de tout. Mais en fait, on est dans le commentaire de ce qu'on vit, mais non pas dans la vie réelle.
Exactement. Alors bon, écoutez, on est... je suis 100% d'accord.
Mais c'est en tout cas ça.
C'est tout simplement carpe diem.
Exactement.
C'est ça. Rio.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur MFM Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
Avec Christophe Willem, et c'est son émission. Alors, un autre mot. Qui va apparaître. Une chanson, c'est une histoire. Alors,
oui.
Mais
clairement.
Toutes les histoires ne sont pas intéressantes.
Oui.
À partir de quand, vous dites, celle-ci, ça peut faire une chanson. Celle-ci, je peux la livrer. Celle-ci, je peux la partager. Parce que le premier juge, le premier auditeur, c'est le chanteur.
Carrément.
C'est le compositeur.
Et il faut faire la distinction entre une histoire personnelle qui va être, intéressante pour vous parce qu'elle vous remémore un moment et un souvenir, et l'histoire personnelle qui devient universelle parce que chacun peut s'y identifier. C'est ça le plus délicat. Après, il y a des évidences. C'est-à-dire qu'il y a une chanson dans cet album qui est vraiment pour moi différente, qui s'appelle Madame. Parce que, si vous voulez, quand j'étais à Rio, justement, c'était assez drôle. J'étais dans un hôtel qui était vraiment un petit hôtel parce que vous aimez bien que Rio, pendant les Jeux Olympiques, c'était débordé de gens. Et en fait, j'étais dans un tout petit hôtel et j'avais une vue sur une favelas, en fait. Et Madame est partie un peu de là. Et en fait, il y avait une église, et vraiment juste un rayon de soleil sur cette église. Et en même temps, à la télé, je voyais un petit peu, on ressassait tout ce qui s'était passé, les attentats et toutes ces choses-là sur une chaîne internationale, en fait. Et quand je suis rentrée, donc là-bas, il y a le titre Louange qui est arrivé comme ça. Et quand je suis rentrée de Rio, je tombe sur un reportage sur Latifa Ebenziaten, qui est donc la mère de Imad, le militaire tué par Mohamed Merah. Et j'ai été scotchée. C'est-à-dire, je me suis dit, mais enfin, il y a quelqu'un, on donne la parole à quelqu'un qui essaie de sensibiliser de la bonne manière, qui n'est pas là pour donner des leçons de morale ou quoi que ce soit. Et c'est la chanson Madame, ça a été une évidence. J'ai essayé de la contacter, ça a été assez rapidement d'ailleurs. J'ai rencontré, et là, ça a été mais un coup de foudre humain pour cette femme. Et je me suis dit, il y a des chansons qui, certes, sur le papier, sont casse-gueule, parce que ça va faire genre, je donne des leçons ou je fais une espèce de chansons humanistes. Et aujourd'hui, de toute façon, les bons sentiments n'ont plus vraiment de place, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le buzz, d'une certaine manière, l'apologie de la violence, du vide ou du trash. Et d'un seul coup, de se dire, non, mais je veux faire une chanson sur cette femme, parce que je pense que ce qu'elle a à dire est important, et surtout, je ne suis pas gêné de véhiculer les sentiments qu'elle véhicule. Et c'est vrai que cette chanson-là, pour moi, elle a un poids qui, j'espère, sera touché un maximum de gens, comme moi, elle m'a touché réellement.
Elle fait partie de l'album Rio. Nous sommes le 30 septembre, l'album est sorti depuis hier. Et ce soir, pour plusieurs semaines, vous allez aux Étoiles.
Exactement. Alors,
racontez-nous.
Cette idée.
Ça,
alors,
c'est à Paris. Hein,
à Paris, exactement. Dans le 10e, c'est un genre de petit club assez roots. Hein. Il y a un petit côté, c'est pas le théâtre installé avec les petits fauteuils en velours, c'est plutôt un peu urbain comme endroit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur l'album Paretti, donc le précédent, j'avais voulu présenter l'album de manière différente. Donc j'avais mis en place une tournée qui s'appelait Les Nuits Paretti-il, où j'étais partie un peu partout en province, dans des lieux insolites. Alors, il y avait le Mont-Saint-Michel, le Pic du Midi, enfin, des lieux complètement bizarres.
Ça, c'est des idées à vous, hein.
Oui. Quand j'arrive d'ailleurs chez mon producteur, bonjour, on va faire des dates de concert devant 60 personnes. Et donc là, j'ai droit dans un premier temps à une blague. Et après, le mec, il dit, bon, bah donc nous sommes à perte dès le début de la tournée. Mais c'est pas grave, voilà, je pense qu'il faut aussi faire, il faut être en phase avec ce qu'on a envie de faire, en fait. Et donc voilà, cette tournée-là, elle était intéressante pour moi. C'était une logique de dire la musique doit aller partout, sans frontières, dans des lieux différents qui ne sont pas forcément des lieux où se passe la musique d'habitude. Ça, c'était pour une nuit, paraît-il. Et sur l'album Rio, j'avais l'envie de dire, bon, bah, après avoir été un peu partout, en fait, c'est moi qui vais rester dans une salle, une petite salle. Et en gros, d'une certaine manière, j'avais été très, très marqué par Zazie à l'époque. On avait fait Zazie squatte le Bataclan. On était resté pendant une série de concerts au Bataclan. Et je me suis dit, pas du tout dans la même formule, parce que nous, c'est vraiment une présentation de cet album. J'avais envie de rester dans un endroit différent et de se dire, voilà, tout le temps qu'on est en train de prendre là, tous les deux, pour expliquer cet album, avoir le temps de le faire avec un public qui vient pour entendre la musique et aussi connaître les histoires cachées de certaines chansons que je ne dévoile pas forcément en interview parce que j'ai ma pudeur, mais que dans une salle close devant un public acquis, d'une certaine manière, j'aurais pas de gêne à expliquer. Et du coup, c'était un peu ce point de rendez-vous-là aussi que je voulais.
Ça s'appelle Les Étoiles et c'est pendant plusieurs semaines, donc à partir de ce soir.
Oui.
À quelle heure?
Je crois assez tôt, c'est 20h, moi je suis sur scène à 21h, 21h15 en fait.
Vous savez d'où vous y serez, hein.
Oui, je suis là, ça n'est pas un hologramme, même que ce soit la mode, mais je suis bien moi.
Vous avez voulu, dans la programmation de votre émission, également accueillir Tibbs.
Oui, ce que j'aime bien, ça fait partie de cette nouvelle scène que je trouve intéressante. J'aime bien les choses faciles, j'aime pas quand la musique donne un côté compliqué.
Vous aimez les choses évidentes.
Voilà.
C'est un mot qui revient souvent dans votre conversation.
Oui, c'est vrai.
Évident.
Que les choses soient fluides et évidentes. Et je trouve que Tibbs, c'est un titre qui est frais. Ce titre-là en particulier, il est frais. Et voilà, ça ne veut pas arriver avec les gros sabots d'une musique trop intello. Et en n'étant pas intello, ça devient percutant et touchant. Donc je trouve ça très bien.
Samedi Sabatier avec Christophe Willem à l'occasion de la sortie de l'album Rio.
Encore d'autres mots pour aller plus loin. Alors, Zazie, j'ai fait un Marianne Jebs. Ce sont des femmes j'allais dire, de votre vie, enfin, des femmes qui ont compté. Un mot sur chacune, exercice
alors,
qui ne sera pas trop difficile pour vous parce que vous êtes un homme de lettres également. Zazie.
Oula. Zazie, je dirais clairement la marraine incontestée, parce qu'elle a été là dès le début, parce qu'elle a accepté de travailler avec moi à une époque où les télécrochets étaient quand même quelque chose qui avait une image un peu péjorative. Et pour elle, voilà, c'est ce qui est assez drôle, c'est quand elle vous raconte la rencontre, moi j'avais fait des pieds et des mains pour la rencontrer en passant par des réseaux différents, et j'avais réussi à la rencontrer. Elle s'apprêtait à me dire, écoute, voilà, je te trouve très sympathique, mais j'ai vraiment pas le temps de travailler. Et en fait, on était dans un restaurant, j'en rappellerai toujours, à Suresnes. Elle me dit, mais voilà, t'écoutes quoi? C'est quoi un peu ta musique? Et là, je lui fais dans le resto, vous rappelez Lisa Stanfield?
Oui.
Donc je fais, if I can change my name, je commence à faire ça. Elle dit, bon, ok, très bien, donc je vais être obligée de dire oui maintenant, parce que tu viens de chanter, que c'est pas possible de ne pas faire des chansons pour toi. Donc c'est très très drôle comment ça s'est passé avec Zazie, parce que ça a été vraiment en une fraction de seconde, un revirement de situation.
Jennifer.
Jennifer, je vais dire, la cousine. Pourquoi? Parce que ça a été un peu quand même celle qui a démarré tout ce qui a découlé des télécrochets. C'était la première gagnante de Star Academy. Moi, je me suis retrouvée à Nouvelle Star quelques années après. Et en même temps, on se comprend très bien. C'est-à-dire que elle, le raz-de-marée qu'elle a eu à la sortie de cette émission a été vraiment très gros, très violent. Et si vous voulez, moi, après, dans Nouvelle Star, je suis arrivée en la connaissant déjà, parce qu'on se connaissait un petit peu. Et en même temps, elle a été de bons conseils. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment sécuriser, c'est important, parce que ça va très vite dans ce métier et tu t'es très vite dépassé. Donc c'est quelqu'un qui a quand même, d'une certaine manière, à la manière de Zazie, qui m'a encadré artistiquement. Je dirais que Jennifer, elle a essayé, avec son jeune âge, parce qu'on avait pratiquement le même âge, hein, elle a essayé de me dire, voilà, fais attention à tes choix et à comment tu te présentes, parce que t'as pas vraiment le droit à l'erreur dans ce métier et le début est important. Voilà.
Un mot sur Marianne James.
Marianne James, bah, ça a été le coup de foudre, clairement. C'est-à-dire que ce premier casting, je me suis... En fait, la vérité, quand j'ai fait le casting, vous savez, quand vous passez devant le jury à l'époque, c'était comme ça, il y avait un retour. Et on voyait donc, il y avait un retour caméra, et on voyait les cinq qui vous précédaient. Et les cinq avant moi s'étaient fait, mais alors, démolir par le jury. Et en fait, les personnes qui attendaient dans la salle d'attente étaient mais dans un état de stress... Et moi, je suis arrivé remonté à bloc, en fait, en disant, mais attends, mais t'as pas le droit de dire que t'aimes pas la chanson de quelqu'un ou sa manière de chanter, mais enfin bon, c'est pas la peine de démolir quelqu'un. Donc je suis arrivé énervé, en fait. C'est pour ça que quand on me voit arriver, c'est drôle quand on regarde le casting, je ne décroche pas du tout de sourire à l'arrivée dans ce casting, parce que j'étais vraiment choqué de ce qu'ils avaient dit. Et puis voilà, Marianne James, ça a été le coup de foudre, parce que c'est celle qui a sorti La Tortue. Et en fait, moi, j'ai fait des études de communication à la base. Et je me disais, non, mais quand je suis arrivée à Baltar et que je voyais des affiches avec La Tortue et tout, j'ai dit, mais les gens, j'ai déjà un surnom alors que les gens ne savaient même pas mon nom. Je trouvais ça totalement hallucinant. Et c'est pour ça que le surnom La Tortue m'a jamais dérangé en soi, en fait.
Allez, deux, trois derniers mots, parce que malheureusement, l'amour doit faire souffrir. Non, mais franchement, est-ce que l'amour doit... Je crois que vous pensez que l'amour doit faire souffrir.
Il y a une part de ça. Moi, je pense qu'il faut vibrer dans la vie.
Oui, mais ça ne veut pas dire souffrir. Je pense que vous avez besoin d'être un petit peu écorché pour aimer vraiment.
Ah oui. Non, mais oui, clairement, j'ai ce besoin-là. Au-delà de ça, j'ai un besoin. L'amour, c'est une conquête. Donc, si vous voulez, les personnes en général qui viennent vers moi...
je vais un peu plus loin. Je pense qu'il n'y a pas d'amour heureux pour vous. Que vous avez besoin d'avoir une dose de fouette-moi un peu.
Ça dépend dans quelles circonstances. Non, pas du tout.
Non,
j'ai bien pas, compris. Non,
je ne me permettrai pas de dire ça.
Non, mais c'est ma pirouette pour essayer de détourner la question.
Non, parce que c'est ce que je ressens.
Non, mais il y a un peu de ça.
C'est ce que je ressens. L'amour heureux, pour vous. Enfin, ou alors je me trompe, mais dites-moi si
non,
je me trompe.
Non, mais vous ne vous trompez pas du tout.
Je pense que l'amour heureux, bêtement, c'est lénifiant. Non, ce n'est pas ça de vous chercher. Vous cherchez autre chose, plus complexe.
Voilà, de plus complexe. C'est-à-dire que je suis profondément amoureux. C'est-à-dire mais amoureux de quelqu'un, amoureux de la vie. J'ai un côté très passionné. Et c'est vrai que souvent dans l'amour, je trouve qu'une fois cette période de passion qui s'éteint, moi, si vous voulez, ma dose d'amour envers quelqu'un ne diminue pas. parce que j'ai cette notion que il faut profiter. Moi, les phrases, la pire phrase que j'entends, c'est non mais arrête de dire je t'aime, ça ne veut plus rien dire. Non mais c'est la pire phrase qu'on peut dire à quelqu'un. Mmh. Bah, écoute, c'est super. Bah, le jour, moi, quelqu'un se lasse que je lui dise je t'aime, bah au revoir. Je pense qu'on est tous, on a tous vécu.
Vous savez quand vous êtes amoureux?
Ah oui, oui. Mais je sais, j'ai quand même deux QI. Ah non, non, mais c'est quelque chose. Non, non, mais je le sais parce que vous voyez, autant je peux avoir une assurance dans les choses. Et le seul domaine de ma vie où je n'ai absolument pas d'assurance, c'est sentimentalement. Parce que je suis à nu, d'une certaine manière. Donc, je n'ai pas de filtre, je n'ai pas la main sur le jeu de ce qui se trame, en fait.
L'émission est terminée. Mais moi, j'étais bien content de vous rencontrer.
Mais pareil.
Bon, on essaie de se revoir.
Ben, avec plaisir, avec grand plaisir.
Mesdames et messieurs, quand je vois l'heure, je me dis que j'ai une semaine pour m'en remettre. Donc rendez-vous à samedi prochain.
Midi 13h, samedi Sabatier, l'interview sur MFM Radio.